En guise d'introduction, simplement une très rapide remise en perspective autour de l'idée de reprise, de renaissance rurale qui, presque systématiquement, sont connotées positivement de tas de valeurs encourageantes pour les territoires, pour les politiques publiques, etc., que ce soit en termes de dynamisme socioculturel, de reprise de l'habitat rural, de diverses dynamiques. Et puis, en même temps, on pourrait évoquer des conséquences ou presque des externalités dès lors qu'on considère que la reprise rurale ou la renaissance rurale peut parfois être le résultat de politiques publiques. Donc, en tant que conséquence inattendue et inenvisagée, il est assez légitime de parler d'externalité. Et là, il y a des externalités négatives. Les plus connues, les plus banales, c'est tout ce qui relève des conflits d'usage, par exemple, entre nouveaux habitants et pratiques anciennes qui sont parfois incompatibles, entre représentations, etc. Et entre autres conséquences négatives, on peut se poser la question ou aborder la problématique de la gentrification rurale. Qui, en tant que concept et processus, n'est pas encore forcément très reconnu ni dans la littérature ni dans la communauté scientifique, et qui, de notre point de vue, mérite, à défaut d'être reconnu d'emblée ou a priori, en tout cas d'être questionné par la recherche. Alors l'objectif de la présentation, eh bien, c'est ce que je disais il y a quelques instants, c'est de repartir des cheminements scientifiques à la fois individuels et collectifs qui nous ont conduits à travailler ensemble à la gentrification rurale et en particulier à travers un programme collectif qui est l'ANR IRGENT pour International Rural Gentrification, qui avait la singularité, on en reparlera plus tard, mais la singularité d'être un programme transnational qui associe Géolab et quelques collègues, notamment Pierre Pistre de P7, et surtout deux collègues britanniques et donc qui bossent sur le Royaume-Uni, sur l'Angleterre en particulier, et des collègues des États-Unis, Nelson et Heinz. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est revenir sur la gentrification rurale en tant que concept, comment c'est apparu, pour faire un point sur la question. Ensuite, évoquer la gentrification rurale en tant que processus et voir comment on peut le mesurer ou y travailler aujourd'hui en France. Et enfin, on entrera un petit peu dans le détail de la construction ou de la mise en œuvre du processus à travers la grille qu'on a élaborée avec Greta et Gabriel, en particulier Gabriel Saumon, du capital environnemental. Alors, si vous vous intéressez un peu à la littérature relative à la gentrification rurale, très très souvent, longtemps, la gentrification rurale a été présentée comme la petite fille, un héritage de filiation de la gentrification urbaine. Là, j'ai noté un certain nombre de titres de parties ou de paragraphes ou d'extraits de textes des quelques géographes français qui ont travaillé sur la notion. Et tous, vous voyez, de la gentrification urbaine à la gentrification rurale, de la gentrification à la gentrification rurale, ou alors en anglais parfois. On a tous souligné à un moment ou un autre cette idée de filiation, supposant que la gentrification rurale n'existait pas avant qu'on ait transformé ou adapté le schéma, la matrice et les questionnements de la gentrification urbaine au milieu rural. Et puis, en complément de, ou pour expliquer cet état de fait, il y a souvent le fait que les collègues se réfèrent à un article de Martin Phillips qui date de 1993 et qui souvent est présenté comme l'article qui signe le début ou l'apparition de ce champ de recherche. C'est un article dans lequel il a proposé d'adapter la théorie du rent gap de Naismith, appliquée au départ à New York, aux mutations socio-spatiales ou sociales des espaces ruraux en Angleterre, notamment et en Angleterre et au Pays de Galles. Et tout le monde a interprété l'application de cette grille de lecture comme le fait que la gentrification rurale n'a existé en tant que concept qu'à partir du moment où on se réapproprie, un ruraliste, Martin Phillips, se réapproprie la grille du Rhin-Gap appliquée aux espaces ruraux. Or, quand on est un tout petit peu plus sérieux sur la généalogie, l'épistémo, quand on creuse un petit peu la question, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. La gentrification rurale est apparue très formellement dans la littérature dès les années 70 au Royaume-Uni, sous la plume de deux collègues, David Parsons et Paul Klock, alors qui s'intéressait beaucoup aux questions de planification urbaine à la campagne, puis de Pat Sion qui a intégré le terme de gentrification rurale dans les manuels de géo-rural de fac dès le tout début des années 80. Et puis, tout au long des années 80, il y a eu des travaux qui souvent continuaient à combiner cette approche de la planification urbaine et de la sélection sociale, qui conduisait à la sélection sociale des espaces ruraux en Angleterre. Et en fin des années 80, il y a un programme de recherche qui fait un peu date sur la place des middle class dans les espaces ruraux britanniques, auquel Martin Phillips a participé en tant que postdoc. Un programme piloté par Paul Klock. Et à partir de ce moment-là, il s'est réapproprié les travaux antérieurs qui remontaient même aux années 60, puisque ces deux auteurs-là, Parsons et Klock, fondaient eux-mêmes leur approche, leur questionnement et s'inscrivaient dans le champ débroussaillé ou défriché par le célèbre sociologue plutôt urbain au départ, Ray Pal. Voilà. Donc, Ça, c'est loin d'être anecdotique parce que ça permet de légitimer la gentrification rurale en tant que notion aux yeux de ceux qui auraient envie de la délégitimer. En tout cas, notamment chez les géographes urbains qui travaillent sur l'urbaine, il y a souvent le réflexe ou l'envie de dire « Ah non, la gentrification, par définition, c'est un processus qui relève de la ville, qui relève des quartiers péricentraux, etc. Et hors de ce contexte géographique, on ne peut pas parler de gentrification. Or, ce qu'on vous a montré à l'instant démontre qu'il y a même presque une quasi-antériorité des travaux relatifs à la gentrification rurale par rapport à la gentrification urbaine, même si on fait souvent référence aux travaux de Ruddlas de 64. Alors ce schéma-là, il vise précisément à enfoncer conforter cette idée en montrant que il y a eu vraiment deux champs distincts. C'est celui de la gentrification urbaine qui démarre sérieusement à la fin des années 70 et qui par contre a tout de suite été très volumineux, investi par des tas de chercheurs partout sur la planète. Et puis celui de la gentrification rurale qui a la même antécédence historique ou antériorité historique, mais qui certes a été beaucoup plus est resté très longtemps beaucoup plus confiné à une toute petite un petit nombre de chercheurs. Et l'idée, c'est que ces dernières années, il y aurait plutôt une tendance à la réunification de ces deux champs pour qui participerait à l'éclosion d'une géographie de la gentrification plus générale. Alors, ceci étant posé, pourquoi et comment s'intéresser à la gentrification rurale? Alors, aux origines de la démarche, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, à titre personnel, moi, j'ai fait une thèse sur les inégalités sociales à Caen dans les années 90. Donc voilà, sur, en ayant travaillé sur les inégalités sociales à Londres, ben, j'ai abordé la question de la gentrification. Et puis en ayant, en m'étant promené à droite ou à gauche à la campagne, je me suis posé des questions sur ce que j'apercevais. Et je me suis posé assez tôt la question de savoir si ça existait aussi à la campagne. Mais pour savoir si on pouvait travailler à la gentrification rurale en France, formellement d'un point de vue, enfin sérieusement en tout cas, j'ai cherché à savoir très tôt à quoi correspondait vraiment la notion de gentrification rurale, à la fois en Angleterre, dans les campagnes anglaises, et pour mieux être en mesure d'interpréter la littérature scientifique relative à la gentrification rurale. Donc ce que je me suis amusé à faire, c'était plutôt très plaisant, c'était à identifier tous les terrains qui avaient été investigués par les collègues et qui avaient fait l'objet de publications scientifiques. Donc là, j'ai listé toutes les publications en question et je me suis rendu sur la totalité, à l'exception de ici, là, dans le Devon, sur tous les terrains, puis aussi en Écosse, mais en tout cas pour l'Angleterre, partout ailleurs. Et c'est instructif parce que je vais vous montrer quelques photographies, mais surtout, dès qu'on est sur place, on prend conscience de quelque chose dont on n'a pas forcément connaissance au travers des articles et des publications, c'est que la gentrification rurale en Angleterre, elle est, en tant que concept, elle s'applique aux espaces les plus immédiatement, alors parfois très ruraux, indiscutablement ruraux, mais aussi très immédiatement périurbains. Et même dans certains cas, on est quasiment en banlieue de certaines villes ou grosses villes. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais c'est quelque chose de fondamental pour comprendre notre démarche. Alors après, je vais passer très vite, mais du coup, on a affaire à des campagnes très concrètement, d'abord très hétérogènes. Il y a plein de types de campagnes, mais on a des paysages qui, en fait, c'est une succession très souvent de cartes postales qui répondent à des paysages très esthétisés, très jardinés, très propres, avec une codification esthétique qui concerne aussi bien les paysages agri-naturels que le paysage bâti. Donc il y a un investissement du bâti, une patrimonialisation. Il y a plein de codes qui s'imposent, des normes esthétiques, etc., qui sont unanimement partagées, ou presque unanimement partagées, même s'il y a des nuances d'une région à l'autre. Mais ensuite, on s'aperçoit en parcourant les campagnes anglaises ou britanniques en général qu'elles sont investies de pratiques culturelles, récréatives, qui sont omniprésentes dans l'espace public et qui donnent à penser qu'on est passé d'espaces plutôt productifs à des espaces post-productifs, qui aujourd'hui concourent nettement à la création d'une identité très singulière et qui, même s'il y a des différences d'une campagne à l'autre, qui traverse l'essence, une grande majorité des campagnes et qui traverse ou qui transcende une grande majorité des territoires concernés. Et puis là encore, pour aller pour finir un petit peu ce rapide tour d'horizon, on s'aperçoit que ces pratiques, elles confinent parfois à des formes d'entre-soi, sociaux, ethniques, etc., et même parfois à des entre-soi très sélectifs, où là, on est à la campagne. Normalement, le Royaume-Uni est une société qui souvent est considérée ou présentée comme multiethnique. Là, il y a que des Blancs. Et même catégorie sociale, enfin je caricature pour aller très vite, mais en tout cas c'est très homogène avec des pratiques culturelles, etc., qui font que on a vraiment une identité middle class très très singulière. Alors donc ça c'est le premier point, c'est une approche par les paysages. Si on gratte un petit peu plus et qu'on essaye de mesurer, d'objectiver un petit peu plus cette question de la gentrification rurale des campagnes anglaises, si ce n'est britannique, on peut s'intéresser déjà au poids des middle class, des classes moyennes telles que les sociologues et géographes les considèrent pour travailler sur la gentrification. Et donc là, on va aller très vite. C'est les catégorie qui regroupe ce qu'ils appellent la petite bourgeoisie. Alors, c'est très hétéroclite, du chef d'entreprise à l'artisan, les cadres, cadres sup, etc., et toutes les professions libérales et grands chefs d'entreprise. Et on s'aperçoit que là, vous avez différentes catégories d'espaces ruraux, mais au total, si on les combine toutes, la moyenne du rural, c'est que 52% de la population active britannique résidant en campagne relève des middle class, c'est-à-dire plus que la moyenne nationale et plus encore, par mécaniquement, que la moyenne urbaine. Donc les service class, les middle class, etc., sont surreprésentés en campagne par rapport à leur position. Donc la hiérarchie sociale, on le verra tout à l'heure, elle est inversée ou inverse par rapport à celle qu'on a en France entre l'urbain et le rural. Mécaniquement, alors voyez, là juste un dernier commentaire, on est aux alentours de 45% de middle class dans les bourgs et dans le périurbain, en gros, pour aller très vite. Et puis, par contre, quand on descend dans la hiérarchie du bâti et de la morphologie du rural, les villages et les hameaux, plus on descend dans cette hiérarchie, plus c'est socialement sélectif. Donc on est à 57 et 55% de catégories sociales supérieures. Voilà. Alors si on regarde ça de manière cartographique, on retrouve la même chose. C'est-à-dire que à part ce coin-là, qui est un peu moins concerné par la colonisation, pour reprendre un terme de Philips, des middle class ou des campagnes par les middle class, partout ailleurs, c'est relativement homogène. Et on est systématiquement au-dessus de 37% ici. Systématiquement autour de 37%. Puis surtout, il y a quand même, pour les deux dernières classes, là, aux alentours des deux tiers de middle class dans des portions significatives de l'espace rural, et même dans toutes les petites poches les plus foncées, là, donc c'est loin d'être négligeable, hein, quand même, on est entre les deux tiers et 90% des actifs occupés qui relèvent des catégories supérieures de la... Voilà. Donc, après avoir fait ce petit, il y a encore d'autres indicateurs qu'on pourrait utiliser, mais pour faire vite. Du coup, l'expérience britannique révèle, alors même s'il y a des singularités, en tout cas, ça révèle c'est-à-dire des singularités locales ou des distinctions locales, une vraie intensité du un vrai processus de gentrification qui s'est mis en œuvre ces dernières décennies et qui imprime aujourd'hui très fortement sa marque dans la composition dans les paysages sociaux, mais aussi les paysages bâtis et agro ou agri-naturels des espaces ruraux. Alors, quand on veut réfléchir à cette... Dès lors, on voit un petit peu mieux ce que c'est que la gentrification rurale. Et on a considéré qu'on était en mesure, à partir de l'expérience et de ce que c'était vraiment pour les Britanniques, de se dire, si c'est ça la gentrification rurale, puisque le concept est né de ce contexte géographique, inspirons-nous de l'approche qui a été celle des collègues britanniques pour essayer de comparer au plus juste et au plus près ce qu'on trouve en France en matière de gentrification rurale. Alors, ça a ses limites, on pourra en reparler d'un point de vue méthodologique, etc. Mais je vais en dire assez vite un mot, ça pose la question des limites du rural, comme je vous l'ai dit en préambule. Alors, avant d'aller un peu plus loin, l'idée, c'est que on comprend très vite qu'on est loin de cette situation en France. Et en même temps, il y a on sent intuitivement ou par l'observation quand on se promène ou quand on y travaille, qu'on lit, qu'il y a quand même apparemment quelques analogies, des similitudes, des processus un peu convergents, des choses qui se ressemblent, etc., ce qui nous a donné envie d'aller un peu plus loin dans nos réflexions et de réfléchir à l'application. Alors, première condition pour réfléchir à la gentrification rurale, c'est que maintenant qu'on sait vaguement à quoi ça ressemble concrètement comme processus, ou à quoi le concept correspond en tant que processus, c'est comment on le définit. Et là, c'est amusant parce que même dans la littérature britannique, alors que ça fait 40 ans qu'ils y bossent, quand on fait une revue de littérature, en fait, la définition de la gentrification rurale, elle n'est pas beaucoup plus stabilisée que pour la gentrification urbaine. Alors, je vous ai mis des exemples, mais là, on compare On voit le... là, c'est les riches. Là, c'est des classes sociales très précises. Là, c'est middle class. C'est quand les espaces deviennent middle class, etc., etc. C'est juste quelques exemples pour illustrer ce manque de stabilité de la définition. Alors nous, la définition qu'on a choisi de construire sur, de manière synthétique en s'appuyant sur toutes celles qui existent, ben c'est celle-ci. C'est un processus avant tout démographique, dans le sens où c'est une migration, sociale et géographique, liée à l'implantation de ménages disposant de capitaux économiques et ou culturels, mais aussi sociaux éventuellement, supérieurs à ceux des populations antérieurement présentes dans les campagnes que les ménages en question investissent. Et puis, comme pour la gentrification urbaine, évidemment, progressivement, l'implantation de ces nouveaux venus se traduit par le déplacement, c'est assez rare, mais en urbain aussi, et plutôt le remplacement, direct ou indirect, plus ou moins partiel ou total, des populations d'origine, entre guillemets, ou à défaut des populations antérieurement installées. Au-delà, ou par voie de conséquence, il y a aussi une transformation des paysages, de ce que Roudelas aurait appelé la personnalité sociale des campagnes. Elle parlait de la personnalité sociale des quartiers londoniens qui étaient concernés. Et puis la géographie... la gentrification rurale, pardon, se singularise de la gentrification urbaine par la place de l'environnement qui, de notre point de vue, est fondamentale pour expliquer les motivations et l'expression du processus et les motivations des gentrifieurs. Alors, ça, donc, voilà, ça, c'est la définition qui nous sert de socle pour travailler ensemble. Ensuite, deuxième choix important, c'est quel périmètre, quelle limite on applique au rural. Nous, on a choisi, parce qu'on en, de s'émanciper des catégories institutionnelles, d'oublier l'existence ou le poids normatif du périurbain et de s'appuyer plus sur l'expérience, sur la perception des gens. Du fait qu'ils vivent à la campagne. Tout le monde, quand on en parle aux gens, moi, quand je parle à ma grand-mère, le périurbain, ça veut rien, ça lui dit rien. En revanche, elle habite à la campagne. Donc, on est parti un petit peu de ce présupposé et on a choisi, je vous passe les détails techniques, mais là, ça, c'est le rural qui resterait du dernier ZAU. Voilà, donc, si on se limite au rural du ZAU 2010, les gens qui s'intéressent au rural, ils sont cantonnés aux marges, aux périphéries ou à je sais pas quoi. Et puis ça, c'est le territoire que nous, on s'est réapproprié. C'est-à-dire qu'on va jusqu'aux confins. On a opté pour une position ruralo-centrée, délibérément. Et on va aux confins ruraux, jusqu'aux portes des villes. Alors on a retenu les unités urbaines de 10 000 habitants, etc. Enfin, je vous passe les détails si ça vous intéresse. On pourrait y revenir. Dès lors qu'on choisit ce champ spatial... on s'aperçoit qu'il se passe des choses intéressantes. Alors, on est très très loin. Donc là, j'ai essayé de reconstituer les classes sociales qui correspondent aux middle class de tout à l'heure. On est très loin des deux tiers ou de la grosse moitié de middle class dans les espaces ruraux. Et on voit que là, au contraire, les catégories socio-professionnelles supérieures sont surreprésentées en milieu urbain. Mais on s'aperçoit qu'en tendance, entre 82 et 2011, il y a un rattrapage spectaculaire où on est... Alors, je vois mal sur mon écran, paradoxalement, je vois mieux là. On est à plus 300% de progression des classes, des CSP plus ou plus dans les espaces ruraux, alors qu'on est qu'à 83% et on est à 165% en général pour le rural. Alors là, vous allez voir, on est plutôt dans le périurbain pour les actifs. Bah, rien de classique, donc rien d'étonnant, pardon. Les CSP+ sont plutôt dans. Et puis en même temps, quand on regarde en tendance à l'échelle nationale, la géographie de la progression des CSP+, elle apparaît beaucoup plus hétéroclite que simplement cantonné aux périphéries urbaines. Donc là, toutes les communes les plus rouges, vous voyez, ça fait des petits spots un peu partout et ça présage ou ça préfigure une géographie très, très, très complexe de ce processus de recomposition sociale. Autre capital, ça c'est les capitaux économiques plutôt, enfin une partie des capitaux économiques à travers les CSP+. Là, on peut prendre la question des capitaux culturels. Et on a une autre géographie, les capitaux culturels, à travers mesurés maladroitement et de manière imparfaite à travers les diplômes. Donc là, c'est des bacs plus 2 et plus. Ça nous permet d'intégrer à la population et au changement social les retraités qui s'installent et qui recomposent massivement certaines campagnes. Et puis aussi des gens qui font le choix de la... Oui, souvent, qui font le choix, en tout cas chez nous, ça se passe comme ça, du déclassement social assumé, mais qui peuvent être docteurs et qui font le choix de s'installer comme agri ou autre chose à la campagne. Et là, eux, ils sont porteurs de certaines formes ou de certains capitaux culturels. Donc là, je vous passe les détails quantitatifs, mais vous pouvez dire que les progressions sont encore bien plus spectaculaires en milieu rural qu'en milieu urbain. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on n'a pas tout à fait, à travers les capitaux culturels, on n'a pas tout à fait la même géographie qui s'esquisse. Notamment, vous voyez sur la carte de droite, en progression, il semble qu'il y ait là, dans un petit cinquième ou un gros cinquième sud, sud-est de la France, des espaces qui, apparemment, se transforment assez massivement sous l'effet de l'arrivée, hein, ce n'est pas des gens qui passent leur diplôme sur place, de l'arrivée de gens diplômés ou très, très diplômés. Autre indicateur, là on revient aux capitaux économiques, et surtout, donc là c'est les revenus. Alors la géographie des revenus, évidemment les revenus sont bien plus élevés en ville qu'à la campagne. Mais surtout, ce qui m'intéresse à travers l'exemple des revenus, c'est de dire que l'outil statistique est un peu nul, en fait. Il est très imparfait pour mesurer le processus de gentrification rurale tel qu'il se met à l'œuvre en France. Alors j'illustre cette idée avec là, entre Angers et Saumur. Je vous passe les détails sur la carte, là, on s'en fiche. On est entre donc Angers et Saumur. Donc on retrouve la polarisation sur les périphéries urbaines, le périurbain chic. Chic d'Angers, voilà. Et puis ici, rive sud de la Loire, apparemment, il se passe un petit quelque chose, mais c'est relativement homogène quand on le cartographie à l'échelle communale. Mais on a la chance de disposer de données, les mêmes données de revenus carroyées. Donc ce sont des carrés de 200 mètres sur 200 mètres qui permettent de visualiser les informations statistiques pour des carrés de 200 mètres sur des 200 mètres, donc seulement là où il y a des gens qui vivent réellement. Donc concrètement, sur le même terrain, tout le gris sont des champs ou des bois ou des vignes. Et là, l'habitat et la composition sociale, les revenus, ils sont vraiment appliqués très précisément à des ensembles d'au minimum 11 ménages. C'est le seuil minimum. Déjà, tout à l'heure, on avait l'impression qu'il y avait vachement d'homogénéité. Excusez-moi pour le langage, il y a eu beaucoup d'homogénéité. Ici, il y a apparemment plus d'hétérogénéité. Alors la carto est mal faite, en fait. Le bleu, c'est beaucoup, et le rouge, c'est contre-intuitif un peu pour des géographes. Et le rouge, les revenus sont faibles. On affine l'échelle d'observation, et typiquement, là, juste deux cas. Ici, localement, en Sud-Loire, les gens, ils appellent, vous voyez, ce petit village-là, c'est Le Toureil. C'est considéré comme, on appelle ça, le Saint-Trope de la Loire. Et de fait, effectivement, sur cette carte, il semble que quelque chose se passe. Ailleurs, là, c'est plutôt pauvre, en tout cas plus modeste. Et puis là, quand on se rapproche d'Angers, ça redevient chic. En tout cas, aisé au regard des revenus. Zoomons un peu, encore, et... Là, une seule commune, la commune de Couture, donc on est en Maine-et-Loire, où à l'intérieur de laquelle, quand on appréhende le revenu moyen tel que je l'avais montré deux cartes auparavant, c'était un revenu moyen. Et puis en fait, en zoomant à travers ces données carroyées, on s'aperçoit qu'il y a en fait les deux extrémités de l'échelle sociale, en tout cas perçues à travers les revenus, qui se côtoient sur la même commune, une toute petite commune qui fait 5 km de même pas de du nord au sud et 4 de d'est en ouest. Zoomons encore, et c'est là où on touche encore les limites du quanti, c'est que en fait c'est pas spécialement là on met de l'hétérogénéité, donc elle a, voilà. Mais surtout ça ne nous dit rien si on ne combine pas au quanti une approche qualitative et de terrain. Et dès lors qu'on connaît un peu le terrain, bah ça commence à être chouette. C'est-à-dire que ici, on est dans le centre-bourg de Couture. On a des lotissements créés dans les années 80 pour justement générer de la renaissance et de la reprise rurale pour maintenir l'école à l'époque, des logements à accession sociale à la propriété, etc., qui aujourd'hui sont massivement paupérisés. Et puis on s'aperçoit que là où c'est le plus chic, ce sont des coteaux calcaires, d'affleurements calcaires, qui ont donné naissance à de l'habitat troglodytique. Et cet habitat troglodytique, dans les années 80, 90, selon les cas, il a été réinvesti par différentes, et aujourd'hui 2000 encore, il a été réinvesti par différents types de populations, différentes catégories sociales, selon des périodes un peu différentes d'un coteau à l'autre. Et aujourd'hui, ce sont ceux qui ont été colonisés, alors qu'ils avaient été abandonnés ou quasi abandonnés, ont été colonisés par des CSP+, des artistes, des profs, un petit peu tous les genres, producteurs de miel ici, un petit peu de tout, quoi. Et c'est intéressant parce que là, par exemple, sur cette carte, on a représenté en jaune l'habitat antérieur à 45, donc tout l'habitat potentiellement gentrifiable, de notre point de vue, qui intéresse les catégories aisées. Et puis, en rouge apparaissent tout ce qui a été construit après 45, et on s'aperçoit que ça correspond souvent aux pavillons plus ou moins récents, de plus ou moins bonne ou mauvaise facture. Là, en l'occurrence, sur cette commune, ça aussi entre le plus ou moins mauvaise ou très très mauvaise facture selon les périodes. Alors ça, pour terminer, je vais très vite, 2 minutes. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le premier terrain de 3 terrains français qu'on a explorés dans le cadre de la NR Irgent, qu'on a sélectionné parce qu'il combinait... Alors il y a 3 terrains. C'est l'Anjou, entre Angers et Saumur. Une partie du triangle d'or en Dordogne, entre Sarlat, les Aizis et Montignac. Et puis le Luberon. À chaque fois, il y a des aménités environnementales, paysagères. Il y a toujours une forte attractivité migratoire qui se mesure facilement. Et puis, il y a une évolution sociale que nous, on considère comme la marque ou l'empreinte du processus de gentrification rurale. Alors, en quelques mots, l'idée, c'est de dire que, en fait, la gentrification rurale, pour l'appréhender en France, il faut accepter le principe ce soit un processus très pluriel. Pluriel d'une région à l'autre, d'une commune à l'autre, et même à l'intérieur d'une commune, il peut y avoir différentes formes de gentrification rurale qui cohabitent, qui se côtoient, ou parfois qui sont en concurrence. Donc, je présente en trois minutes là les terrains. À chaque fois, on a fait des terrains où il y avait vallées, peu importe. Donc là, c'est la gentrification du Sud-Loire. C'est-à-dire que le Sud-Loire, c'est la manière qu'ont les gens de décrire ce terrain, cet endroit très prisé, un petit peu select, et habité, quand on est en Anjou, habité Sud-Loire. Ça, socialement, ça signifie quelque chose. C'est loin d'être neutre. Il y a des paysages singuliers, très attractifs. Il y a des aménités patrimoniales avec du bâti intéressant pour ceux qui s'intéressent à la vieille pierre, pas forcément que du troglo, d'ailleurs. Là, on est dans une reprise rurale très classique qui n'a démarré que dans les années 80-90. Il y a clairement une forte pression, c'est une reprise rurale très portée par une forme de périurbanisation. Il faut y ajouter, pour le cas présent, la proximité à Paris, l'arrivée du TGV a créé ou a permis à des navetteurs d'habiter là et d'aller... Enfin, des navetteurs, j'exagère, mais des gens qui ont besoin de circuler avec Paris très vite et très bien. Puis il y a eu des labellisations diverses et variées, PNR, patrimoine UNESCO, etc., qui ont contribué à renchérir le foncier. Bon, il y a un ferment culturel, il y a pas mal d'artistes, des réseaux culturels assez denses. Et pour Greta va en reparler, donc c'est une première pierre, un premier jalon pour les propos à venir de Greta. On a des catégories de gentrifieurs. On a ceux qu'on appelle les gentrifieurs mainstream, c'est les gens, les cadres, les employés, les actifs, les profs. Voilà, ça c'est la masse des gentrifieurs, sont plutôt les capitaux économiques et culturels. Puis après, il y a des sous-catégories. Il y a par exemple les étrangers qui peuvent peser d'un poids plus ou moins fort, les Anglais ou autres. Donc là, on a pas mal d'Anglais. Évidemment, beaucoup de retraités qui viennent chercher la douceur angevine. Voilà, c'est tout ce qu'on trouve dans les entretiens, etc. Et puis, il y a une poche ou des poches de ce que nous, on appelle des alter gentrifieurs, donc des gentrifieurs qui sont motivés par des relations renouveler à l'environnement, qui privilégie le développement alternatif, la vie en communauté, etc. Et là-bas, il y a un vrai terreau pour ce type d'acteurs de la renaissance rurale. Et pour ce dernier terrain, il y a des formes d'hybridation entre population ancienne et population nouvelle, notamment à travers un tissu associatif l'idée, c'est de dire qu'il y a il y a un sentiment de mixité entre toutes ces populations et qu'il y a peu de tensions, même s'il y a des rapports de domination. Les pauvres ou les populations modestes n'ont plus accès aux bâtis anciens, etc. Il y a trop de pression. Le marché est saturé. Et en même temps, quand on les interroge, ils ont le sentiment que l'arrivée des néos, ce que nous, on appelle les gentrifieurs, elle est plutôt positive pour la redynamisation du terrain, etc. Autre exemple, c'est pas tout à fait la même chose, la Dordogne. Alors là, c'est Dordogneshire. Dans la littérature anglaise, c'est pour montrer le poids des Anglais. Hein. En fait, ils n'étaient pas les premiers. Au début, c'était plutôt des Hollandais, des néos, dans les années 60-70. Après, il y a eu une vague d'Anglais. Il y a des paysages et un peu singuliers, évidemment, là aussi, pour la Dordogne. Mais surtout, par rapport au premier cas, ce qui singularise et le vecteur de la gentrification là-bas, plus que en Anjou, beaucoup plus, c'est le poids de l'économie touristique. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique, par exemple, que la gentrification, elle soit vraiment dans le cœur de la vallée, notamment de la Vézère ou dans la vallée de la Dordogne. Alors que dès qu'on quitte le fond de vallée et qu'on passe sur les coteaux, tout de suite, c'est beaucoup plus populaire. Il y a beaucoup plus de mixité. Il y a la possibilité de construire est beaucoup plus simple, plus aisée. Et du coup, l'accession à la propriété est moins sélective socialement, etc. Et puis, alors là, dans les populations, beaucoup d'étrangers, énormément de retraités. Il y a le poids de la résidence secondaire dont les propriétaires sont ils pèsent, hein, sur le présent et l'avenir des territoires concernés. Et puis il y a des investisseurs, donc là on retrouve les travaux de Philippe, des gens qui achètent des maisons juste pour faire de l'argent, hein, sous forme de location. Une location, une grosse maison comme ça là avec une piscine, ça peut être 3 000-4 000 euros la semaine en plein été, hein. Donc c'est un investissement très rémunérateur, mais qui prive les locaux d'accès. Dernier exemple, le Luberon. On a mis « le » en majuscule et en italique, parce que c'est pour nous l'archétype de la campagne. On parle de luberonisation, mais de la campagne gentrifiée. Donc là, ça a démarré. C'est une autre histoire. Ce sont dans les années 50 des artistes, des néo-ruraux, mais c'est encore plus vieux qu'en Dordogne. Et puis là, bon, c'est la connotation méditerranéenne qui a justifié l'arrivée massive de nouvelles populations un peu plus tard. Plein de formes de labellisation aussi. Alors là, il y a deux moteurs locaux. La pression périurbaine, évidemment. On n'est pas loin d'Avignon, pas très loin d'Aix, de Marseille, etc. Mais en même temps, avec le TGV, on est à... Je sais pas, ils sont pas loin de Paris. Ils sont très contents d'y avoir accès très vite. Et ils en parlent très régulièrement. Et puis, il y a une vraie connexion au monde. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'élite internationale qui circule partout sur la planète, qui se côtoient et qui dans des villages plus ou moins élitistes. Et là, on a retrouvé des populations qui venaient de tous les pays, en tout cas développés, de la planète, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Et par rapport aux deux autres cas, la gentrification ici, elle déborde le bâti à vocation, à valeur patrimoniale, pour se compléter d'un pavillonnage massif, mais très, très onéreux. Des gens normaux ne peuvent pas se payer la construction d'un terrain, la construction d'une maison Enfin, c'est très cher. C'est devenu aujourd'hui très cher. Donc on a, contrairement aux deux autres exemples, une gentrification quasi généralisée de la portion de... Nous, on a travaillé autour de Apt dans le Luberon, avec qui mélange mainstream, étrangers, retraités. Et puis nous, là, on a rajouté des super gentrifieurs, des gens avec des revenus hors du commun. Hein, on a... Enfin, il y a des maisons à 2 millions d'euros, etc. Il y en a partout. Et, enfin, à Caen, il doit pas y en avoir beaucoup, beaucoup. Là-bas, c'est monnaie courante. Enfin, monnaie courante. Et puis là, par contre, ça se joue pas ou ça se décline pas du tout de la même manière en termes d'interaction sociale. Autant, par exemple, en Anjou, on a plutôt parlé de mixité, d'hybridation. En Dordogne, c'est plutôt soft. Il y a des tensions autour de la pression de l'économie touristique, de son caractère saisonnier, du fait que les journaliers aient du mal à se loger, etc., qui posent problème avec les résidences secondaires. On le trouve dans les discours. Mais là-bas, c'est beaucoup plus violent comme ligne de fracture au sein entre catégories sociales. Il y a des formes de distanciation sociale qui vont plutôt jusqu'à des formes d'exclusion. Et puis là, j'ai mis ethnicisé pour euphémiser un peu le discours, mais c'est souvent racialisé ou raciste, hein, avec une opposition très claire entre Apt, où se concentre l'habitat social et des populations maghrébines, et puis les périphéries qui sont beaucoup plus blanches et homogènes de ce point de vue-là.
Que ce soit à travers la littérature ou à travers l'exploration de nos terrains, ce qu'on avait était vraiment une réalité plurielle de la gentrification. C'est-à-dire un phénomène un processus qui pouvait se manifester de manière très différente selon les terrains. Des formes, des intensités, des échelles différentes, des populations hétérogènes qui étaient au centre du processus. Donc la question qui s'est posée, que nous nous sommes posées, c'est finalement comment lire cette pluralité ? Comment analyser cette hétérogénéité à des terrains gentrifiés et de ces campagnes en pleine transformation sociale ? Et donc, c'est là qu'on a commencé à s'intéresser à une lecture par les capitaux. Donc, vous l'avez vu dans la définition qui a été donnée tout à l'heure, la gentrification est vue comme un processus d'appropriation matérielle et symbolique d'un territoire par des populations, individus ou groupes sociaux qui disposent de plus de capitaux. Et c'est autour donc de cette idée de capital qu'on a commencé à s'interroger et à dire peut-être que le capital peut être une clé de lecture, une clé d'analyse pertinente pour la gentrification rurale. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, assez tôt, la gentrification à la fois urbaine et rurale a été mobilisée. Enfin, les chercheurs ont été conduits à mobiliser l'idée de capital. Alors, d'abord, en gentrification... en gentrification urbaine, assez tôt, aux années 70, puis 80, c'est-à-dire les géographes urbains, notamment les géographes marxistes, ont lu la gentrification comme un retour des investissements de capital vers les villes. Donc c'était cette disons, circulation du capital et ce retour vers les centres-villes qui pouvait expliquer les transformations sociales et matérielles. Et c'est une vision du capital plutôt économique, du capital économique en fait. C'était de ça qu'il s'agissait au début. Mais très vite, on a commencé à voir que ce n'était pas seulement des personnes riches qui disposaient du capital économique qui étaient au cœur de la gentrification, c'était aussi des personnes qui disposaient des capitaux culturels ou sociaux, des artistes, les enseignants, les journalistes, tout ce qu'on a ensuite appelé la classe créative, et qui s'intéressaient aussi à ces quartiers populaires qui les investissaient. Et donc là, on a aussi identifié la catégorie des gentrifieurs entre guillemets marginaux, qui identifient donc plutôt les artistes ou les classes plutôt intellectuelles, donc des gentrifieurs qui disposent de plus de capitaux culturels et sociaux que économiques. Donc ils ne sont pas forcément riches, mais ils ont d'autres leviers, disons. Et si on regarde du côté de la gentrification rurale, on retrouve également cette même démarche. C'est-à-dire, la gentrification est analysée en tant que retour du capital économique par les campagnes. Donc, Philips, dans l'article de 93, parle de cette inégale circulation du capital comme à l'origine de la gentrification. Mais très vite, on commence à s'apercevoir qu'il y a d'autres profils de gentrifieurs et que la perspective économique n'est pas suffisante. Donc on parle de mode de vie, on parle de lifestyle, on parle de représentation, en ayant vraiment une approche par les aspects culturels et sociaux. Que ce soit dans la littérature donc britannique, mais aussi en France. Vous avez par exemple l'article de Pernoud qui analyse la gentrification dans les Corbières, dans le sud de la France, qui parle, qui explique du capital social dont les gentrifieurs qu'il observe font preuve. Et donc, c'est ce qui s'affirme progressivement, c'est cette lecture selon laquelle ce sont les ménages qui disposent de plus de capitaux qui peuvent s'installer dans des campagnes qui sont attractives, qui sont convoitées et qui peuvent se gentrifier. Et ce sont ces ménages aussi qui peuvent, grâce à ces capitaux, asseoir leur légitimité, affirmer leur présence et leur pouvoir dans ces campagnes. Donc commencer aussi à envisager on commence à envisager les capitaux comme vraiment un outil, enfin, ou un instrument, merci, du processus de domination, en fait, sociale. Donc, à côté du capital, comme première, disons, possible grille de lecture transversale de la pluralité de la gentrification, il y a un autre aspect qui s'est imposé à nous, notamment à travers le terrain, ainsi qu'à travers la littérature, comme élément omniprésent dans l'analyse de la gentrification rurale, qui est l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement est vraiment le fil rouge des travaux sur la gentrification rurale, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou en France. Et qu'il s'agisse d'environnement en tant que paysage, en tant que pratique récréative, en tant que cadre de vie, enfin vraiment environnement dans une acception très très large. Et d'ailleurs, cette centralité de l'environnement est bien exprimée par le néologisme qui a été créé par Darren Smith en 98, puis a mieux développé en 2001, qui est Greenification, qui a donc un néologisme qui a été plusieurs fois repris, qui n'a pas été énormément creusé, mais qui s'est révélé plutôt efficace et qui a donc faisait référence à cette demande et cette perception de demande d'espace vert, de verdure, de nature et d'un cadre résidentiel, en fait, de la part des gentrifieurs. Et donc, l'environnement, dans le contexte britannique, donc ces deux chercheurs ont travaillé en Angleterre, l'accent est vraiment mis sur le cadre résidentiel. C'est l'environnement comme cadre de vie, localisation pour les logements. Aux États-Unis aussi, les études sur la gentrification rurale ont vite mis en évidence cette centralité de l'environnement, mais avec une autre acception de l'environnement. C'est-à-dire que là, on parle aussi de wilderness gentrification. Donc une gentrification liée à cette demande de proximité de nature, et en particulier de nature sauvage, donc proximité des parcs, proximité de la faune sauvage. Donc la possibilité d'avoir accès à ces espaces préservés et privilégiés. Donc là, on est plutôt dans un environnement vu comme nature plutôt récréative. Et en France aussi, l'environnement émerge assez vite dans les travaux sur la gentrification, surtout en tant qu'aménité paysagère. et aussi comme un élément que les gentrifieurs investissent en tant qu'imaginaire, en tant que représentation, et qui contribuent aussi à forger. Et donc, j'ai fait référence aussi aux travaux qui ont été menés sur la montagne Limousine, qui visaient vraiment à souligner l'impact des gentrifieurs sur l'environnement. Et en particulier, ce qui nous a intéressés dans ces travaux sur l'environnement en montagne Limousine, et ce que ces travaux ont permis de mettre en évidence, est le fait que l'environnement est présent à plusieurs étapes du processus de gentrification. Et donc, à différents moments du parcours résidentiel ou des trajectoires migratoires des ménages, des personnes qu'on rencontrait, l'environnement avait un rôle différent. Et ces rôles, donc on a essayé de les synthétiser dans ce schéma qui est appliqué au Luberon, montre la manière, donc, que ce soit en amont, que ce soit pendant la migration ou en aval de la migration, donc quand on est déjà dans un processus de gentrification, l'environnement, enfin, les gentrifieurs et l'environnement interagissent et comment il y a une influence mutuelle. Donc, si je reprends ce schéma, ce qu'on peut voir, c'est que l'environnement agit dans le processus de gentrification déjà en amont de la migration, en amont du choix de migrer. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans l'environnement en tant que imaginaire, en tant que représentation de la campagne, de la nature. Si vous pensez au Luberon ou à la Provence, peut-être que vous avez en tête des images d'une campagne calme, de ces villages perchés, des vignes, de lavande. Et ce sont des éléments qu'on retrouve très facilement et qui sont alimentés à travers des ouvrages, des ouvrages littéraires. Là, il y a l'exemple du célèbre roman « Une année en Provence » de Peter Mayle. À travers la presse, par exemple la presse de décoration des maisons, à travers des films. Donc tout cela contribue vraiment à une construction de la campagne et à de une construction sociale des représentations du rural et de la campagne. La deuxième étape correspond au moment vraiment de la migration. C'est là aussi qu'on a un rôle spécifique de l'environnement qui n'est plus seulement une construction sociale, mais c'est le moment où les ménages, les groupes sociaux se posent la question, je vais à la campagne, ou je vais dans le Luberon, mais qu'est-ce que je cherche ? Donc là, on a des éléments beaucoup plus concrets qui rentrent en jeu. Et donc l'environnement est vraiment vu comme le cadre résidentiel dans lequel on cherche certains éléments. On cherche une certaine vue, par exemple. On cherche le fait d'avoir une maison qui permette d'avoir qui propose telle ou telle esthétique paysagère, qui permettent d'avoir des baies vitrées ouvertes sur le paysage environnant, où on cherche un jardin avec des cyprès, où on cherche la proximité de la vigne. Donc des éléments vraiment tangibles qui permettent de conforter aussi les imaginaires qu'on avait dans la première étape. En troisième moment, cette interaction gentrifieur-environnement s'est traduite aussi en aval de la migration. Quand ces populations, ces ménages sont installés et quand on peut vraiment observer aussi les éléments, les marqueurs, disons, de la gentrification. C'est peut-être là aussi que c'est intéressant et peut-être c'est un aspect qu'on peut plus facilement aborder en entretien quand on fait du terrain, c'est voir comment ces populations qui contribuent à la gentrification ont un impact sur l'environnement. Donc non seulement elles s'installent parce que cela correspond à certains imaginaires, mais elles-mêmes contribuent à modifier l'environnement qui les entoure. Et cela, cet impact est visible à plusieurs échelles. Il est visible d'abord à l'échelle de la maison, avec un investissement, par exemple, très important sur cet environnement proche et domestique, qui est le jardin, les jardins potagers, qui sont très souvent réinvestis, esthétisés, qui ont une dimension peut-être productive, mais toujours lié à une dimension aussi esthétique. On observe l'introduction de nouvelles essences, de nouvelles pratiques aussi. Et on le voit aussi à des échelles plus larges, plus grandes, jusqu'au paysage. Et pour vous illustrer ça, je peux donner l'exemple du Luberon et de l'impact que certaines populations plutôt aisées peuvent avoir dans la modification de ce paysage à une échelle plutôt large. Et c'est l'exemple de la lavande. Alors, bon, la lavande, vous dites, oui, c'est une plante typique de la Provence, bien sûr, c'est un des symboles. C'est vrai, mais ce n'est pas forcément une essence typique de cette partie de la Provence, donc du Luberon. Et pourtant, on la retrouve de plus en plus souvent. On retrouve de plus en plus souvent, quand on se promène, à ces champs très grands de lavande, très jolis en pleine saison, avec des touristes qui prennent des photos au milieu. Et en fait, ces champs de lavande entourent souvent des grandes propriétés privées. Des mâts provençaux, des résidences secondaires, qui donc ont été achetées par des résidents, qu'ils soient permanents ou secondaires, qui achètent donc ces grandes propriétés avec les terrains autour. Terrains autour qui étaient des terrains agricoles, mais dont ils ne savent pas forcément quoi faire. Ça ne les intéresse pas trop d'avoir des patates autour d'eux. Donc, ils les donnent en gestion, ils les confient à des agriculteurs, à une condition, c'est que ces agriculteurs plantent de la lavande. Donc cela permet à ces personnes qui s'installent de recréer autour d'eux, vraiment autour de leur maison, ces paysages rêvés qui les ont conduits à s'y installer. Cela a un impact sur le paysage parce que c'est quand même une transformation du paysage qui est très visible, même de loin parfois. Et cela conduit aussi à une transformation des activités productives finalement, parce que ces agriculteurs aussi sont conduits à adapter leur production, leur mode de travail à des nouvelles cultures. Donc là, on a vraiment c'est un impact de la gentrification qui se manifeste à travers des nouvelles normes esthétiques, mais aussi de nouvelles pratiques productives. Et toutes ces évolutions, en fait, permettent deux choses. D'une part, elles permettent aux personnes qui sont installées de conforter leur imaginaire. Ils sont venus parce qu'en amont, ils avaient une certaine représentation de la campagne. Mais voilà, là, ils agissent concrètement pour la retrouver, pour recréer, en fait, pour mettre en cohérence l'environnement rêvé avec l'environnement qu'ils ont autour d'eux. Mais l'autre conséquence, et c'est aussi ce qui explique la boucle, c'est que cela alimente ces représentations pour d'autres personnes qui se reconnaissent dans les mêmes imaginaires et qui donc sont poussées, encouragées à venir s'installer dans ces territoires. Donc d'autres personnes, d'autres groupes sociaux avec le même profil en fait, avec les mêmes attentes, les mêmes aspirations. Et l'autre élément que cette analyse du rôle de l'environnement nous a conduit à formaliser, c'est que finalement l'environnement n'était pas seulement un cadre, n'était pas seulement un décor, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel ces populations pouvaient avoir un impact et qu'ils mobilisaient en fait. C'est-à-dire que progressivement, l'environnement nous a paru en tant que levier pour ces personnes, en tant que ressource. Il nous semblait pas quelque chose de neutre, mais il nous a paru en tant qu'actif social, en fait. Un actif social que les personnes pouvaient mobiliser pour atteindre leurs objectifs, leurs buts, voilà, c'est leurs intérêts propres. Et donc, c'est en ce sens qu'on... Et surtout, cette ressource était aussi inégalement répartie, en fait. C'est-à-dire qu'elle pouvait aussi être un des éléments qui pouvait expliquer les rapports de force, voire de domination. Donc, c'est de cette réflexion qu'a commencé à germer l'idée de ce qu'on appelait un capital environnemental. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un peu la genèse, la construction de cette grille d'analyse qui a été construite collectivement à Géolab à partir de 2015 et qui nous semblait efficace, enfin opérationnelle, pour expliquer la gentrification dans des terrains très différents. Alors, je vais reprendre un peu de peut-être de loin, mais avant de parler de, enfin, pour parler de capital environnemental, on s'est appuyé plutôt sur les travaux sociologiques de Pierre Bourdieu. Donc, le fait de dire, voilà, il y a différentes formes de capital, économique, social, culturel, plus de manière transversale un capital symbolique. Et ces différentes formes de capital représentent des leviers pour les individus, pour les groupes sociaux, des leviers qui sont mobilisés pour atteindre certains objectifs individuels ou collectifs. Et qui dit capital dit inégalité. C'est-à-dire que, par définition, le capital est quelque chose qui est inégalement réparti et donc qui est quelque chose qui permet d'expliquer et de justifier les inégalités sociales. Donc, c'est là qu'on a commencé à se demander est-ce que le capital peut finalement être... est-ce que l'environnement peut être considéré en tant que capital ? Alors, on n'a pas été les premiers à s'interroger sur cela, c'est-à-dire que c'est déjà d'autres géographes s'étaient questionnés sur la manière de s'approprier ce concept. Il y a eu des travaux sur le capital spatial, sur le capital de mobilité, sur le capital territorial, avec des approches différentes qui venaient expliquer des aspects parfois très hétérogènes. Mais il y avait aussi une certaine réticence de la part des géographes à mobiliser cet outil, enfin ce concept, justement parce que c'est vu comme un objet sociologique et que certains sociologues ont aussi exprimer la crainte ou le danger d'une certaine inflation des capitaux. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de capital partout, sinon cela conduit à une perte de sens du concept. En tout cas, on a essayé de, effectivement, aller un peu plus loin. On a essayé de s'approprier de ce concept en prenant en considération aussi ces précautions qui avaient déjà été un peu posées. Et une des premières choses à faire pour nous, si on suit aussi le cheminement de la théorie de Bourdieu, c'était de dire, pour parler de capital environnemental, il faut parler d'un champ social de l'environnement. C'est-à-dire que pour parler de capital, on suppose l'existence d'un champ social. Donc le champ social... En sociologie est défini comme un microcosme, en fait, un microcosme autonome où les différents acteurs sociaux se positionnent et se jouent différents équilibres et des rapports de force. C'est valable pour capital culturel, économique, social. Donc la question qu'on s'est posée, c'est finalement, est-ce qu'on peut parler d'un champ social de l'environnement ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut envisager l'existence de ce microcosme, de ce micro-espace social au centre duquel on trouverait l'environnement ? Et là, la réponse que nous nous sommes donnée, au vu des enjeux environnementaux, en vue de l'omniprésence de l'environnement dans nos pratiques quotidiennes, dans les injonctions, dans le champ politique, c'était oui, effectivement, il nous semble que qu'on peut retrouver la constitution d'une sphère environnementale, d'un champ environnemental. Et c'est la pluie. D'accord. Et donc c'est là qu'on a commencé à imaginer la constitution de ce champ social qui est bien sûr constitué par les acteurs finalement. Ce sont les individus, les groupes sociaux qui constituent ce champ et qui se positionnent au sein de ce champ selon leurs valeurs environnementales. C'est-à-dire, on a beaucoup essayé, on n'a pas réussi à visualiser ce champ, à lui donner une représentation graphique. Donc on reste vraiment chaque fois dans la description, mais c'est bien sûr un concept abstrait, mais qui fait référence à un ensemble de valeurs qu'on a pu identifier dans tout ce qui est lié à l'habitat, l'habitabilité, à la qualité sanitaire, aux pratiques écologiques, à la qualité environnementale, au paysage. Donc autant de valeurs qui viennent constituer ce microcosme et au sein desquels les acteurs sociaux, finalement, prennent position, en fait. Ils prennent position parce qu'ils se reconnaissent ou pas dans certaines valeurs. Ils y adhèrent ou ils s'y opposent. Mais voilà, il y a une prise de position par rapport à cela. Et valeurs qui sont bien sûr, voilà, je viens de le dire, très, très hétérogènes. De la même manière où les investissements dans l'environnement sont hétérogènes. C'est-à-dire que l'intérêt du champ social de l'environnement est aussi de voir la manière dont l'environnement est investi par les acteurs. Donc quand on parle d'investissement, on fait référence à la manière dont les acteurs sociaux peuvent mobiliser un actif social, une ressource, afin d'atteindre certains objectifs. Alors, quels sont, par exemple, ces investissements dans l'environnement? Alors, dans nos terrains, ce qu'on a pu observer, c'est vraiment une pluralité des investissements dans l'environnement. Ça peut être des investissements, bien sûr, dans la localisation résidentielle, l'effet de chercher une maison, un investissement plutôt à travers la valeur habitat, habitabilité. Donc chercher une localisation qui corresponde à certains critères de localisation, proximité de la nature, intégration dans le paysage, maison écologique, écoquartier, etc. Ça peut être des investissements liés au jardin, à la production. Là, vous voyez, par exemple, un jardin en Dordogne, en carré, avec de la permaculture. Alors, on ne voit peut-être pas très bien, mais voilà, très esthétisé, où tout est très bien à sa place. Ou ça peut être aussi des investissements sous forme d'engagement aussi. Là, vous avez, par exemple, de l'association Luberon Nature, qui est une association qui, depuis 50 ans, œuvre pour défendre certains principes ou certaines conceptions plutôt élitistes de l'environnement. Et donc, cette pluralité, j'arriverai pas à le dire, cette diversité des investissements dans l'environnement nous montre vraiment aussi, permet d'illustrer la diversité des processus de gentrification qu'on a rencontrés dans nos terrains. On avait pu analyser sur nos terrains ces processus à travers l'investissement dans le capital environnemental. Mais il nous manquait encore quelque chose, c'est-à-dire voir comment finalement le capital environnemental contribuait à nous permettre de décrypter, de comprendre les logiques de domination. Et pour cela, ce qui nous manquait, c'est de voir son articulation avec les autres capitaux, donc notamment économique ou social. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers le processus de conversion. C'est-à-dire qu'un des principes du capital est aussi celui de la conversion d'un capital à l'autre, ce qui permet aussi une accumulation. Donc une accumulation du capital, donc aussi le renforcement de certaines inégalités. Car les conversions sont les échanges, disons, qui expliquent l'inégale répartition du capital environnemental. Et donc je vais vous donner quelques exemples issus des différents terrains qui permettent d'expliquer ces conversions et en même temps les inégalités dont ces conversions sont à l'origine. Alors, comment acquérir du capital environnemental? Une première voie, ça peut être par la conversion du capital économique vers le capital environnemental. L'exemple peut-être le plus transversal dans nos terrains est celui de l'achat résidentiel, en fait, dans l'investissement dans une certaine localisation, dans des logements qui s'insèrent dans un cadre environnemental et ou paysager à privilégier, et avec des prix parfois très élevés, donc où il y a vraiment, entre guillemets, un ticket d'entrée pour pouvoir résider dans un certain espace. Et si on prend le Luberon, par exemple, vous avez des prix de logement ou de propriété qui sont prohibitifs pour la plupart d'entre nous, je pense, ou dans certaines campagnes anglaises aussi. Ce qui montre effectivement la sélectivité, l'élitisme de ces territoires et les processus d'exclusion par le marché. Donc là, le capital économique sert et converti en capital environnemental, c'est qui permet à ces ménages plutôt aisés d'avoir accès à cet environnement privilégié et à ce cadre environnemental très sélectif. Un autre exemple de conversion est celui du capital social et culturel au capital environnemental. Donc là, il ne s'agit pas forcément de personnes très, très aisées, mais des personnes qui disposent des diplômes, qui disposent d'un bon réseau de relations, réseau et disons diplôme, donc capital social et culturel, qui leur permettent de s'assurer de vivre dans le cadre environnemental qui leur correspond. Et pour illustrer cet exemple, cette forme de conversion, je vais utiliser un exemple tiré d'un terrain en Dordogne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Dordogne, mais c'est un habitat qui est plutôt dispersé, avec des bourgs et plutôt des hameaux. Donc un habitat relativement dispersé au milieu des vallées, plutôt agréable. Et donc dans une commune proche de Sarlat, on trouve un hameau qui est désormais vraiment récomposé d'un point de vue social, avec des architectes hollandais, avec une bibliothèque anglaise, des ingénieurs parisiens, des entrepreneurs américains. Voilà, c'est plutôt cosmopolite et en large partie recomposé, même si certaines familles locales, notamment des agriculteurs, restent encore. Et donc, c'est un hameau qui se caractérise par une proximité entre ses habitants. Proximité qui est bien sûr résidentielle, mais qui est aussi sociale et culturelle. Et cette proximité et l'union cette proximité a pu être très évidente au moment où un projet de lotissement proposé par la mairie a fait surface. C'est-à-dire que la mairie avait le projet de développer un, un, un lotissement en contrebas de ce hameau, donc dans la vallée dans la vallée proche en fait, vallée qu'on voit de la plupart de ces maisons. Et donc c'est là qu'a commencé une mobilisation au niveau des habitants du hameau qui ont fait d'abord pression localement en utilisant donc leur capital social et culturel pour parler avec le maire, pour sensibiliser la population contre ces projets, mais qui a aussi fait appel à des acteurs extérieurs, en créant des alliances avec des associations environnementales, avec l'ADREAL, donc avec des institutions qui ont permis effectivement de bloquer ce projet de lotissement. Et comment il a été bloqué ? Grâce à une fleur. C'est-à-dire qu'une association environnementale un biologiste en particulier d'une association environnementale a identifié une fleur protégée qui s'est située dans ce terrain. Et voilà, c'est cela qui a suffi, c'est l'élément qui a suffi pour arrêter le projet. Donc qu'est-ce qui nous montre cet exemple ? Il nous montre déjà le fait que effectivement ce capital social et culturel est converti en capital environnemental, c'est-à-dire que le capital social et culturel est mis au service de la préservation d'un cadre de vie et d'un cadre de vie qui est à la fois individuel et collectif, notamment dans ses dimensions paysagères et résidentielles. Ça montre aussi c'est un exemple qui nous montre aussi le fait comment en fait se produit un peu l'entre-soi dans la gentrification rurale et le processus d'homogénéité sociale. C'est-à-dire que, comme Frédéric l'a dit tout à l'heure, on a rarement des exemples d'éviction ou de déplacement de personnes dans la gentrification rurale. Les densités sont souvent très faibles, les prix, le marché immobilier est rarement tendu. Mais ici, on a un exemple de comment l'entre-soi est créé en empêchant d'autres personnes d'arriver. Ce lotissement aurait très probablement été destiné à des ménages plus modestes, à des populations qui ne pouvaient pas se permettre d'investir ou d'acheter des maisons périgourdine, en pierre, patrimonialisée. Et donc là, on a aussi ces capitaux qui sont au service de l'entre-soi qui donc est en train de se faire. Ces conversions et le capital environnemental ont aussi un autre but qui est celui d'affirmer la légitimité de ces nouvelles populations sur le territoire et d'affirmer l'emprise de ces ménages. Et cette légitimité se traduit aussi ou se construit aussi à travers la conversion inverse. C'est-à-dire, là, on a évoqué les conversions des autres formes de capital vers le capital environnemental, mais l'inverse est tout aussi vrai, c'est-à-dire que le capital environnemental peut être mis au service des autres capitaux pour donc une certaine pour contribuer à cette accumulation. Et là, je vais prendre deux exemples dans le Luberon et la Dordogne, deux exemples qui concernent une catégorie sociale un peu particulière qu'on a essayé d'analyser, qui est celle des artistes. Une citation qui était extraite d'un entretien avec une artiste dans le Luberon, qui artiste installée depuis 20 ans, qui travaille avec des grandes maisons de mode à Paris, à l'étranger, voire localement, et qui raconte, oui, à l'été, moi j'ai fait des lectures de philo, d'actualité dans mon jardin, tout le monde est invité, mais finalement c'est seulement une certaine élite qui vient, c'est-à-dire ceux qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire ceux qui, avec qui on partage certaines cultures, certains intérêts. Les autochtones, eux, ils ne viennent pas. Et il n'y a pas vraiment de mélange, parce qu'il y a ces micro-sociétés. Elle parle, c'est elle-même qui introduit le mot « ghetto ». Mais donc voilà, cette micro-société plutôt élégante, liée à l'art, à la décoration. Et donc là, c'est le fait de pouvoir résider dans un environnement privilégier, préserver comme le libérant, donc de disposer de ce capital environnemental de départ, qui permet aussi d'avoir accès à du capital social, c'est-à-dire le fait d'être dans cet environnement privilégié donne accès aussi à d'autres classes sociales qui et donc de d'accumuler à d'autres formes de capital. Et on a la même dynamique aussi dans le Périgord, où on a beaucoup d'artistes installés, notamment dans certains villages, et le capital environnemental de ces artistes peut être identifié dans la... le mot est peut-être un peu fort, mais presque monopole, que ces artistes ont des représentations. C'est-à-dire que certains sont installés là depuis très longtemps. Pour beaucoup, ils font de l'art lié à la nature, des paysages, de la peinture en plein air. Ils vendent des gravures, des aquarelles vraiment liées au paysage. Donc il y a une mise en scène de cet environnement périgourdin. Mais c'est cela aussi qui plaît aux touristes. Donc eux-mêmes, ils ont contribué à forger cet imaginaire. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose qu'ils vendent, qu'ils proposent aux touristes, donc qui leur permet de continuer à vivre sur place et à accumuler du capital économique à travers l'économie de l'art local. Et donc là, par exemple, cet aquarelliste, enfin ce peintre, expliquait le fait que lui... Tant mieux, il avait déjà commencé à peindre des paysages, ce qu'il aimait, mais c'est aussi le fait de pouvoir vendre ses produits et avec un certain type de représentation qu'il a encouragé à le faire. Donc, j'ai peut-être été un peu longue, mais j'arrive à la conclusion et je vais développer juste deux points dans cette conclusion. Donc, qu'est-ce que nous apporte une lecture de la gentrification rurale par le capital environnemental? Donc, le capital environnemental est vraiment un outil, est une grille d'analyse qu'on a utilisée pour décrypter, disons, la fabrique, les mécanismes qui sont à l'origine des inégalités socio-environnementales et des processus d'exclusion. Et elle permet de souligner comment finalement ces appropriations matérielles et symboliques de l'environnement se construisent. Et donc, en conséquence, de voir aussi les logiques sociales, les rapports de domination, les rapports de force qui sont à l'œuvre dans ces territoires et qui sont de plus en plus évidents, notamment dans les campagnes qui sont les plus gentrifiées, comme le Luberon. Mais plus largement, et donc aussi un point qui nous ramène aussi à la première partie de l'intervention, ces questionnements sur gentrification, sur capital environnemental, de nombreux questionnements sur gentrification, capital environnemental restent encore ouverts, et surtout dans une approche comparative. Approche comparative dans laquelle on s'intégrait au début du programme IRGENT, donc sur la gentrification rurale, ces nombreux questionnements restent encore, disons, en attente de réponse pour nous, notamment si on s'intègre dans une perspective, disons, transnationale. C'est-à-dire que le fait de travailler sur la gentrification rurale avec des collègues britanniques, avec des collègues américains, nous conduit à nous poser à des questions qui sont aussi celles du qu'est-ce qu'on entend par environnement, qu'est-ce qu'on entend par rural, à quelle échelle on se situe. C'est-à-dire que en faisant du terrain, donc en Angleterre ou dans les Rocheuses aux États-Unis, en discutant avec ces chercheurs, on voit aussi que le langage est différent, que les terrains choisis ont des caractéristiques différentes, que les populations qu'on observe sont aussi plutôt hétérogènes. Donc, se pose vraiment la question de comment trouver une approche commune pour analyser ces processus de transformation socio-environnementale à l'œuvre dans les campagnes occidentales. Je pense que je vais m'arrêter là. Et, merci.